Et vous êtes arrivé d'être sur une route certainement, et là vous vous dirigiez vers Saint-Lô par exemple, et puis d'un seul coup, vous voyez un panneau qui vous dit « Il reste 10 kilomètres pour que vous arriviez au Mont-Saint-Michel ». Alors là, vous vous rendez compte que vous êtes sur la mauvaise route. Le panneau indicateur vous a mis la puce à l'oreille. Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là, lorsque vous réalisez que vous êtes dans la mauvaise direction? On fait demi-tour, on change de direction et on prend la décision de rebrousser chemin et de reprendre la bonne direction. Les habitants d'une petite ville, Thessalonique, en Grèce, eux aussi, étaient en voyage. Pas, ils n'avaient pas des voitures, mais c'était le voyage de la vie. Ils étaient sur une route qui les conduisait quelque part, et voilà qu'un homme est arrivé chez eux. C'était pour ainsi dire le panneau de l'autoroute qui leur disait « Attention, vous êtes sur un chemin qui vous mène à tel endroit, et ce n'est pas la bonne destination. Vous avez besoin de changer de direction. » Vous avez besoin de prendre la bonne décision et aller dans le sens qui est le meilleur pour vous. Et qu'est-ce que ces gens ont fait lorsqu'ils ont entendu cette parole? Eh bien, ils ont écouté la voix de Paul et ils ont pris la décision de faire demi-tour et de changer leur direction de vie. Quand ils ont fait ça, Dieu a accompli dans leur vie des choses merveilleuses, véritablement. Ils sont devenus une église modèle pour les autres, une église modèle de foi, d'amour, d'espérance, une église qui reflétait la joie, qui avait de l'influence, une église qui avait un rayonnement moral et spirituel, comme nous en avons parlé la dernière fois. Ils sont devenus une église à qui l'on désire, oui, j'attends, ressembler, merci. Une église à qui l'on désire ressembler. Et c'est d'autant plus vrai pour notre église à nous, puisque nous avons la même vision d'être une église qui rayonne dans la cité. La foi de ces chrétiens a été une foi qui s'est répandue dans toute la région où ils habitaient. Et c'est notre désir aussi. Avoir une foi qui porte au-delà des murs et qui atteint les autres croyants. S'ils sont devenus une église modèle, ces chrétiens, c'est parce qu'ils ont vécu une expérience qui a véritablement transformé leur vie. Ils ont fait l'expérience de Dieu qui est entré dans leur vie pour apporter une transformation. Et nous allons lire les deux versets qui nous parle de cette rencontre et de cette transformation, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 et 10. On raconte en effet, à notre sujet, quel accueil vous avez réservé et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Je relis les deux versets. On raconte en effet, à notre sujet, quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. L'apôtre Paul était un proclamateur d'une magnifique bonne nouvelle. Et il allait de ville en ville pour annoncer aux gens que Jésus est le Seigneur des Seigneurs, qu'il est le vivant, qu'il est le ressuscité et qu'il veut apporter une grande richesse à la vie de ceux qui l'accueillent comme le Seigneur de leur vie. Les Thessaloniciens ont entendu l'apôtre Paul proclamer ces paroles. Et en l'entendant, ils ont pris conscience, eux qui adoraient des idoles en marbre, en bois, en bronze, ils ont pris conscience que ces idoles sont vaines, qu'elles sont mortes. La seule chose qu'elles communiquaient aux vivants, c'était le froid du marbre ou de la pierre. Et en entendant parler de Jésus, de la vie nouvelle qu'il apporte, du fait que lui-même est vivant, cela les a bouleversés, cela a apporté un changement radical dans leur vie. Ils ont découvert que Jésus est vraiment vivant et agissant. Et il a accompli par son action dans la vie de ces gens quelque chose de grandiose. Et alors ils ont changé de direction. Ou comme Paul le dit, ils se sont tournés vers Dieu. Une autre traduction dit, ils se sont convertis à Dieu. Et c'est cela, la conversion. C'est un retour vers le Seigneur, vers Dieu. Peut-être que lorsque vous entendez parler de conversion, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est changement de religion. Alors, laissez-moi vous dire que ça, c'est la plus grande erreur. Tout le monde pense que se convertir, c'est changer de religion. En réalité, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit tout simplement d'un retour vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. La conversion ne veut pas dire changer de religion, parce que Paul n'a pas encouragé ses chrétiens, ses Thessaloniciens, à abandonner la religion grecque pour épouser une nouvelle religion. Il ne les a pas encouragés à changer de rite, à abandonner des rites magiques, l'adoration des idoles, pour adopter d'autres rites, loin de là. Qu'est-ce que les Thessaloniciens ont fait? Ils n'ont pas abandonné des protocoles, des manières de faire qu'ils utilisaient pour honorer leurs idoles. En fait, ils ont tout simplement abandonné leurs idoles et leur religion pour entrer dans une relation. Et c'est ça la différence. La conversion ne consiste pas à changer de religion, la conversion consiste à changer de relation. C'est se rendre compte que ceux avec qui je croyais être en relation, c'est faux, parce que ce sont des morts. Comment puis-je avoir une relation avec des idoles mortes et muettes? Et c'est prendre conscience qu'il y a un Dieu vivant avec qui je peux être en relation. Et c'est pour ça que le texte nous dit qu'ils se sont tournés vers le Dieu vivant et vers le Dieu vrai, parce que les idoles sont de faux mensonges. Vous vous êtes convertis à Dieu, autrement dit, vous avez fait demi-tour pour ne plus regarder vers la mort, mais regarder vers celui qui est vivant. Une nouvelle relation. Quand Paul a présenté Jésus à ces hommes et à ces femmes qu'il entendait, ils ont pris conscience qu'ils pouvaient avoir une vraie relation, un nouveau lien avec le Dieu que Paul leur présentait. Ce lien nouveau, cette relation nouvelle, apporte une richesse inouïe à ceux qui ouvrent leur cœur à Jésus-Christ. La relation nouvelle qu'ils ont établie avec Dieu les a véritablement changés. Quand on lit le premier chapitre, on voit qu'il y a un bouleversement radical et qu'ils sont passés du pire au meilleur. La relation nouvelle les a changés, elle leur a apporté la vie, elle leur a apporté la joie, elle leur a apporté le bonheur de se savoir aimer. Ils avaient tout à gagner, en fait, en abandonnant les idoles, qui ne pouvaient absolument pas leur apporter la satisfaction profonde à laquelle ils aspiraient. Je pense à ma propre expérience, et c'est l'expérience de tous ici. Nous n'avons pas abandonné une religion. Je n'ai pas abandonné l'islam pour épouser une nouvelle religion. J'ai abandonné l'islam pour devenir une nouvelle personne qui a une relation unique avec le Dieu vivant et vrai. Je n'ai pas changé de relation, j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Un homme était d'origine hindoue et il était à cette époque-là très engagé dans la religion hindoue et en même temps très opposé au christianisme. Il y avait des missionnaires qui lui ont présenté l'évangile. La première réaction, c'était l'opposition. Mais Dieu a travaillé son cœur et un jour il s'est converti. Et il est devenu très connu dans le monde entier. Je vous donne son nom, c'est Sadhu Sundar Singh. Et un jour, au bout de plusieurs années, l'un des grands savants européens qui ne comprenait pas très bien comment les choses fonctionnaient au niveau de la relation avec Dieu est allé voir ce nouveau chrétien en lui disant « Mais dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez trouvé dans le christianisme que vous n'aviez pas dans votre religion traditionnelle ?» Alors Sadhu Sundar Singh a réfléchi, il lui a dit « J'ai trouvé Jésus. » Et le savant n'était pas content. Il lui dit « Oh, je sais bien, mais qu'est-ce que tu as trouvé d'autre ? Est-ce que tu as trouvé une nouvelle pratique, des bougies à allumer qui soulagent ton esprit ? Est-ce que tu as trouvé une nouvelle doctrine, un nouvel enseignement ?» Et Sadhu Sundar Singh l'a regardé en lui disant « J'ai trouvé Jésus. C'est la seule chose que je peux trouver. C'est ça le christianisme. C'est une personne et non pas une pratique et non pas une nouvelle religion. » Voilà ce que les Thessaloniciens ont trouvé lorsqu'ils ont entendu l'apôtre Paul. Ils ont trouvé Jésus. Et voilà ce que tu peux trouver aujourd'hui en m'entendant maintenant. Tu peux vraiment faire la rencontre de Jésus. Se tourner vers Dieu, c'est trouver le Seigneur Jésus. C'est trouver le vivant qui est absolument merveilleux pour nous. C'est l'expérience à laquelle chaque être humain aspire. L'Évangile nous montre Jésus se tournant le premier vers nous. Dieu ne te tourne pas le dos. Dieu te regarde face à face. Et tu sais ce que Dieu attend ? Dieu attend de toi que tu regardes vers lui aussi. Que tu tournes vers lui. Et quand il y a le face à face entre toi et Dieu, il y a une nouvelle relation qui se crée. Il y a un amour qui va jaillir du cœur de Dieu et submerger ton cœur. Et ta vie va être transformée. Dieu fait infiniment plus que de nous attendre. Il fait le guet en espérant te voir sur le chemin du retour, en disant « Le voilà celui que j'attends depuis longtemps. » Dieu a fait infiniment plus encore. Il a préparé le chemin sur lequel tu peux marcher. Parce que ce chemin était pavé d'obstacles. Et Dieu a balayé les obstacles. Il a tout enlevé. Et il t'invite, il te dit, le chemin est vraiment facile. Il demande de toi simplement les premiers pas. Et Dieu est déjà à ta rencontre. Il n'est pas au bout du chemin t'attendant. Il est tout près de toi. Il suffit que tu te tournes et tu verras Dieu face à face. En trouvant Jésus-Christ, tu découvriras que Dieu est un Dieu vivant qui attire les hommes au lieu de les épouvanter. Tu trouveras et tu entendras la voix douce de l'amour rédempteur au lieu de la condamnation et du jugement. Peut-être que tu te sais coupable devant Dieu. Peut-être que tu sais que tu mérites la condamnation parce que ton cœur te parle de choses que tu as faites qui n'honorent pas Dieu et qui te condamnent. Mais sache que Dieu vient à toi pour t'offrir la miséricorde et la paix et pour te changer. Sache que Dieu veut te guérir de tes blessures par les fruits qu'il a recueillis des blessures et de la mort de Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu veut t'accorder. Dieu est d'une bonté inouïe. C'est une bonté qui fend le cœur, qui change les pensées, qui t'attire vers le ciel, qui te pousse à aller vers Dieu, à te tourner vers lui, à mettre en lui ta confiance, à te reposer sur le Père des miséricordes, sur le Dieu de toute consolation. Aujourd'hui, je ne te présente pas une religion. Aujourd'hui, je ne te demande pas de devenir évangélique. Je ne te demanderai jamais de devenir baptiste. Aujourd'hui, je te dis, il y a une personne devant toi qui t'attend et qui t'invite. Alors viens à Jésus-Christ. Je te demande véritablement et je t'implore aujourd'hui, fais-le, parce que c'est ce que Dieu attend de toi. Dieu attend que tu tournes ta face vers lui, que tu l'accueilles comme ton allié. C'est ce qu'il veut être pour toi. C'est ce qu'il est déjà. Il est là devant toi, désirant ardemment regarder ton visage. Et quand ton visage se tourne vers Dieu, tu verras le plus beau des sourires, le sourire accueillant, le sourire amoureux de ton Sauveur, parce qu'il t'aime véritablement. Peut-être que tu te trouves derrière un mur, bâti par tes propres mains, qui te cache la face de Dieu. Tu sais que ce mur a été détruit, et il veut être détruit par le Seigneur Jésus-Christ. Quand le mur est détruit, un nouvel espace de relation s'ouvre à toi avec le Dieu d'amour. C'est une nouvelle relation de pardon, de miséricorde, de restauration. Lorsque tu entres en relation avec Dieu, c'est comme si tu te connectais à la source de toute joie, de toute paix, de tout bonheur, à la source de la restauration, de la consolation, de tout ce qui est en réalité vrai et dont tu as besoin. Toutes ces choses, la joie, la paix, l'amour, la miséricorde, la consolation, toutes ces choses, nous pouvons les chercher dans les idoles, croyant que l'argent, croyant que la beauté, croyant que le succès, croyant que le travail nous les donnerait. Ce sont de fausses idoles. Ce sont des idoles qui ne peuvent pas apporter ce que tu cherches. Elles apporteront la déception parce qu'elles n'ont pas la vie en elles. Dieu est le vivant. Jésus est le ressuscité. Lui, il est la source de pardon, de paix, de joie et de bonheur. Peut-être qu'il y a dans ton cœur des craintes. Peut-être qu'au fond de ton cœur, il y a des choses qui t'empêchent de te tourner vers Dieu. Tu te dis, mais je ne le connais pas vraiment. Peut-être que tu as peur justement de passer à une religion qui va te contraindre, qui va te rendre la vie exécrable. Peut-être que tu penses que venir à Jésus-Christ, te tourner vers Dieu, c'est devenir triste, t'empêcher de vivre et devenir un être humain affligé. En réalité, il y a une caricature de Dieu que la société n'a pas cessé de présenter aux humains, en leur faisant croire que Dieu, c'est le père fouettard, en leur faisant croire que ce Dieu dont les chrétiens parlent, c'est le Dieu qui empêche de vivre, qui empêche de se réjouir de la vie, de profiter de la vie. Et on a fini par le croire. C'est complètement faux. Lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons que Dieu, celui en qui nous croyons, c'est un Dieu de vie, c'est un Dieu de bonheur, c'est un Dieu de joie, c'est un Dieu qui veut que les hommes jouissent de la vie, profitent de la vie, vivent heureux. Et c'est pour cela qu'il est venu en Jésus-Christ pour apporter cette joie et ce bonheur auquel notre cœur soupire depuis longtemps. Peut-être que la vie t'accable et tu cherches la paix du cœur. Alors laisse-moi te dire, Jésus est le prince de la paix. Il est venu pour t'apporter la paix. Peut-être que tu veux le pardon. Sache que Jésus est la source de tout pardon. Que tu sois croyant ou pas croyant, Jésus est là pour te communiquer le pardon. Si tu ne l'as jamais reçu, il te le donne. Si tu l'as déjà reçu et que tu vis dans la culpabilité en tant que chrétien, Jésus veut te donner à nouveau aujourd'hui le pardon. Peut-être que tu es à un tournant de ta vie. Tu trouves des questions à te poser sur le sens de la vie, sur le sens de ce que tu fais. Parfois, nous passons par des crises existentielles et nous pouvons finir par nous poser la question, mais à quoi rime tout ça? À quoi ça rime la vie? Est-ce que vraiment c'est à cette vie-là que je suis appelé? Est-ce qu'il n'y a pas dans mon cœur une profonde aspiration à autre chose? Est-ce que je ne sens pas que je suis appelé à découvrir une nouvelle dimension de la vie? Et maintenant, je me trouve dans le blabla quotidien, dans une vie plate, rentemplant. Peut-être que tu te poses ces questions-là. Laisse-moi te dire que Jésus apporte la dimension essentielle à ta vie. Et tant que tu n'es pas entré dans cette dimension, tu éprouveras toujours un manque de sens à ta vie. tu sauras toujours qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et Jésus t'invite aujourd'hui. Alors viens au Seigneur Jésus. Viens, connecte-toi à la source de vie pour recevoir la vie, pour recevoir la paix, pour recevoir ce dont tu as besoin. Se tourner vers Dieu et regarder la face de Dieu, c'est la première chose concernant la conversion. Mais ça ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Il y a aussi autre chose, parce que Paul dit à ses croyants, vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant, en laissant derrière vous les idoles. Les deux vont ensemble. J'abandonne les idoles et je me tourne vers le Seigneur. Alors, une fois que tu t'es tourné vers Dieu, abandonne tes idoles. Attention, certains disent ou croient que lorsque nous nous tournons vers Dieu, on a déjà laissé nos idoles derrière. Pas tout à fait. Parfois, on peut s'accrocher à ce qu'on aime beaucoup. Et parfois, on veut composer. Et parfois, on voudrait avoir le beurre et l'argent du beurre. Et quand on veut le beurre et l'argent du beurre, les deux fondent et on se trouve avec le vide, avec rien. Abandonne totalement tes idoles. Vous vous êtes converti à Dieu en tournant le dos à vos idoles, en qui vous mettiez votre espérance, sur qui vous comptiez. C'est ce que Paul disait aux Thessaloniciens. C'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Vous vous êtes tourné vers Dieu en abandonnant vos idoles. Et nous avons besoin de prendre le temps d'examiner notre cœur pour savoir s'il n'y a pas quelque idole qui fait le siège et qui nous asservit. Parce que les idoles sont asservissantes. Elles nous maintiennent dans l'esclavage. Quand vous êtes complètement adonné à l'argent, vous êtes esclave de votre argent. Et peut-être même pas de votre argent. Vous êtes esclave de l'argent que vous croyez pouvoir avoir un jour. Si vous êtes complètement absorbé par votre travail, vous êtes esclave de votre travail. Et le travail, au lieu de vous apporter ce que vous pensez avoir le droit de posséder, vous vous trouvez à être esclave de votre travail. Le succès, c'est pareil. Et la beauté, vous savez qu'aujourd'hui, la beauté est présentée comme... C'est la nouvelle déesse Vénus. Vous savez, Vénus, c'est la déesse de la beauté. Les Grecs adoraient une statue. La statue a disparu, mais il y en a. Peut-être même qu'il y a des statues. C'est pas en pierre, ce sont des mannequins. Et les gens les adorent. Les gens se prosternent devant la beauté. Et parce qu'ils croient que la beauté va leur apporter ce dont ils ont besoin. Jamais les idoles ne donneront satisfaction. Il y aura toujours un arrière-goût amer, voire la mort au bout du compte. Les Thessaloniciens n'ont pas voulu le beurre et l'argent du beurre. Ils n'ont pas cherché non plus à ménager le chou et la chèvre. Ils ont pris la décision de tourner radicalement le dos à leurs idoles et de se tourner vers Dieu en oubliant le reste. C'est un engagement de vie, un engagement de cœur, un engagement de l'intelligence. Dorénavant, je coupe avec ce en quoi je mettais mon espérance pour épouser celui qui est la véritable espérance, Jésus-Christ. Et c'est en cela que ces croyants sont des modèles pour nous. Nous avons besoin de faire comme ces Thessaloniciens, faire la coupure nette entre ce que nous servions et celui que nous avons décidé dorénavant de servir, Jésus-Christ, le Dieu vivant et vrai. Nous avons vraiment besoin de faire l'examen de notre cœur parce qu'il y a des idoles tapies au fond du cœur de chacun. Et c'est un combat de tous les jours. Ne pensez pas qu'il n'y a pas d'idole dans votre cœur, et je ne pense pas non plus, et c'est mon combat de tous les jours. Et je dois faire en sorte que Dieu soit le seul vrai Dieu que j'aime et que j'adore. Et si vous ne faites pas attention, il y a des idoles qui surgissent dans votre cœur sans que vous en rendiez compte. Vous savez qu'à Rome, il y avait beaucoup de temples, et les Romains voulaient honorer tous les dieux. Et alors, ils avaient peur d'en oublier un. Donc ils ont fait quoi? Ils ont construit un temple qui s'appelle le Panthéon. Le Panthéon, c'est le temple de tous les dieux. C'est ça ce que veut dire le mot pan, tout et dieu, théos. Le temple de tous les dieux. Ça a été construit par Agrippa au 1er siècle. Et ils ont fait amener énormément de statues. Le temple était rempli de toutes les statues qui représentaient toutes les divinités. C'est impossible, hein, parce qu'il y a des milliers. Mais en tout cas, ils ont essayé. Mais au 7e siècle, ce temple a été transformé. Et vous savez en quoi? En église, puisque le christianisme a commencé à dominer. Et à cette époque-là, on a bien sûr détruit toutes les statues de Jupiter, de Zeus, de Vénus, etc. Mais vous savez ce qu'on a fait? On en a amené d'autres. On a mis d'autres statues. On a chassé des idoles pour les remplacer par d'autres. Et ça, c'était la plus grande erreur qui existe encore aujourd'hui, malheureusement, parce que dans certaines églises, il y a encore des statues. En fait, c'est juste le ménagement du chou, du chou et de la chèvre, le beurre et l'argent du beurre. Dieu a dit non, les statues doivent être détruites et jetées par-dessus bord pour que ne se dresse qu'un seul Dieu qui est le vrai, le Dieu vivant dont nous avons besoin, qui nous apporte ce que notre cœur désire le plus. Maintenant, vous pourriez peut-être me demander, mais qu'est-ce qu'il faut concrètement que je fasse pour me tourner vers Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour me connecter à cette source, Jésus-Christ, qui est le vivant? Comment est-ce que je peux établir cette relation avec lui? Pour être en relation avec Dieu, deux choses dont nous avons besoin. Nous avons besoin de repentance et nous avons besoin de confiance. C'est ce que Paul dit aux Thessaloniciens juste avant, le verset 8, il leur dit « Votre foi a été célébrée dans toute la région. Vous avez placé votre confiance en Dieu et vous vous êtes tourné vers Dieu, ça veut dire que vous avez exprimé un changement de direction. » Et la repentance, ce n'est rien d'autre que cela. C'est une prise de conscience que j'étais sur une mauvaise voie et que dorénavant, je dois me réorienter, je dois changer de direction. Et aujourd'hui, tu peux simplement dire ces paroles. Oui, je suis sur un mauvais chemin. Je ne regarde pas vers toi, Dieu. Je regarde vers mes idoles. Je regarde vers moi-même. Je regarde vers le vide. Dorénavant, je reconnais que j'ai avancé tête baissée, que j'avance vers le gouffre, je veux m'arrêter et je veux me tourner vers toi. Je veux regarder à toi pour que tu m'accueilles dans ta grâce et dans ton amour. Ça, c'est la repentance. Amen. Et si tu dis ces paroles, si tu parles à Dieu de cette manière, cela suppose que tu as assez confiance en Dieu pour le faire. Oui. Je suis sur un chemin qui ne mène nulle part et je veux me tourner vers toi pour que tu m'accueilles dans ta grâce. Ce sont des paroles qui germent du cœur en qui il y a déjà une petite confiance. La confiance en Dieu, c'est la main que nous tendons vers lui. Elle est vide, nous n'avons rien à lui donner. Et cette main, il vient la saisir et la remplir de ce que nous désirons le plus, la relation avec Dieu. Vous voyez, lorsque vous tendez la main, vous rencontrez la main de Dieu qui est déjà tendue par avance vers vous. Et la relation se fait, le contact se fait. Et le contact, c'est le contact avec la vie, c'est le contact avec le Dieu vivant. Et la vie de Dieu va jaillir dans votre cœur, dans votre âme et vous apporter une nouvelle vie, une nouvelle espérance. Qu'est-ce que d'avoir confiance? Alors, je vais vous raconter une histoire qui va, je pense, vous aider à comprendre. En 1987, la ville de Portland aux États-Unis a décidé de faire des travaux gigantesques de restauration, de rénovation. Elle a transformé une énorme place publique, elle a construit un théâtre, une bibliothèque et deux immeubles qui se regardaient face à face. Le jour de l'ouverture de tout ça, la ville avait décidé de célébrer l'inauguration par un spectacle énorme. Nous, quand on fera ça, on va les dépasser. Mais ils voulaient quelque chose qui claque. Alors, ils ont fait appel à Philippe Petit. Vous connaissez? Je ne connaissais pas, j'ai découvert. Philippe Petit, c'est un homme français mondialement connu comme funambule. Il a fait des exploits incroyables. C'est lui qui a relié un fil entre les deux tours jumelles et il a traversé de l'une à l'autre. Il a fait ça au deuxième étage de la Tour Eiffel à Sydney, enfin là où il y avait le danger le plus extrême, il y était, parfois illégalement. Mais il est devenu extrêmement célèbre. Donc ils lui ont dit, nous avons deux immeubles, nous voudrions que tu passes de l'un à l'autre sur un fil comme funambule en faisant des choses spectaculaires. Alors en secret, il est allé pour découvrir le terrain et préparer la chose. Et alors, il s'est adressé aux organisateurs en leur disant « J'ai besoin d'une deuxième personne parce que je voudrais la prendre sur mon dos afin qu'elle traverse avec moi. » Mais une personne qui n'a jamais fait ça. Alors les organisateurs se sont creusés la tête et puis l'un des organisateurs était dans un restaurant et voilà qu'il voit une jeune femme qui semblait en bonne santé, qui semblait assez agile, mais pas non plus la sportive numéro un. Et il lui a dit, écoute, nous cherchons une jeune femme pour faire tel exploit. Elle connaissait rien. Elle s'est dit, bon, ça m'intéresserait éventuellement, mais je voudrais d'abord en savoir plus sur cet homme-là. Parce que c'est vrai que ce serait fou de dire, bah tiens, à 50 mètres, je grimpe sur le dos de quelqu'un, je traverse avec lui un fil, c'est un rigolo, on est morts tous les deux. Alors, on a pris le temps de lui présenter Philippe Petit, et elle s'est renseignée, et elle s'est rendue compte que cet homme a déjà fait d'énormes exploits, qu'il n'est jamais tombé, qu'il avait 25 ans d'expérience, et il l'a invité chez lui. Il lui a dit, regarde, je vais me mettre sur une corde qu'il a dressée dans l'appartement où il habitait. Maintenant, tu vas essayer de me faire tomber. Donc, il s'est mis sur la corde avec les deux pieds. Il a dit, vas-y, essaye. Alors, elle a essayé de toutes ses forces, impossible de le déloger du fil. Et en apprenant à le connaître petit à petit, en voir de quoi il était capable, elle s'est dit, je peux lui faire confiance. Et je prends le risque. Le 30 septembre 1987, les projecteurs éclairent Philippe Petit. Et le fil sur lequel il était tendu entre les deux immeubles à 50 mètres de hauteur. Et voilà que Philippe Petit fait des choses incroyables. Il court, il fait des galipettes sur le fil. Le public est ébahi. Et le moment surprise est arrivé. On le voit entrer dans l'immeuble et sortir avec la jeune femme Anne Seward sur le dos. Et il traverse avec elle tout le fil en jouant d'un instrument de musique. Oh. Et au bout de l'exploit, Anne Seward a dit « Pour faire ce que j'ai fait, il fallait que j'aie une confiance absolue dans cet homme. » Le public était là. Le public connaissait Philippe Seward. Il savait intellectuellement que Philippe Petit pouvait faire cet exploit. Mais qui parmi le public se serait levé pour dire « Moi, je prends la place d'Anne Seward. » Peut-être. Pourquoi elle a pris ce risque? C'est parce qu'elle a fait l'expérience, en découvrant cet homme, qu'elle pouvait vraiment compter sur lui et qu'il avait la capacité de la porter, de la maintenir en sécurité et de l'amener au bon endroit. Et c'est exactement cela, la confiance en Dieu. C'est connaître petit à petit Jésus et se rendre compte qu'il est capable, oui, il est capable de me garder, de me sauvegarder, de me protéger et de me porter afin que je chemine avec lui de l'endroit A à l'endroit B. C'est ce que Jésus veut faire de ta vie. Il veut te porter sur son dos. Il veut te garder attaché à lui et tu n'as rien à craindre parce qu'il a la capacité de te porter. Et pourquoi nous le savons? C'est parce qu'il l'a déjà fait des millions et des milliards de fois. Il a porté sur son dos des milliards d'hommes qui ont traversé sans aucune crainte, qui sont arrivés à bon port. Jésus veut te conduire au cœur de Dieu. Jésus veut te conduire vers la cité céleste. Jésus veut t'amener au royaume de Dieu, là où se trouve la paix, la miséricorde et la joie. Voilà ce que Jésus veut accomplir pour toi. Voilà à quoi il t'invite aujourd'hui. Alors, je t'invite vraiment à le faire. Viens à Jésus aujourd'hui. N'attends pas. Tu peux lui faire confiance parce qu'il en a le pouvoir. Il a le pouvoir de te sauvegarder, de te protéger et de te faire traverser sans aucun danger. Alors, tends la main vers Jésus. Dis-lui, je monte avec toi. Porte-moi. Porte-moi jusqu'à Dieu parce que j'ai besoin de toi et j'ai besoin de Dieu. Connecte-toi à Jésus par la foi. Que devons-nous faire? Eh bien, allons à Jésus. Nos fardeaux de culpabilité, de chagrin, de péché, il les prend sur lui, il les porte. Et il nous libère. Il nous donne à la place un vêtement de joie, de la bénédiction, de l'amour et de la paix. Vous trouverez des cartes comme ça. Il y en a quelques-unes ici. Il y en a sur le présentoir. Je vous encourage à en prendre et à lire. Je vais vous montrer le texte qui est écrit. Il y a un verset de la parole de Dieu, de la Bible. Un homme qui était dans le désespoir, et il a dit à Paul et Silas, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Le deuxième verset, vous l'avez sur le mur. « Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur Jésus sera sauvée. » Alors, tu peux lire ce texte avec ton cœur, avec ta bouche. Aujourd'hui, je reconnais que je suis loin de Dieu. Je confesse de ma bouche et crois de tout mon cœur que Jésus a été crucifié pour moi. Je crois qu'il est mort sur la croix pour me libérer du péché et faire de moi un enfant de Dieu. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui parce que Dieu l'a ressuscité des morts. Je reçois maintenant Jésus et le proclame mon Sauveur et Seigneur. Désormais, par l'aide de l'Esprit de Dieu, je veux vivre pour plaire à Dieu et le glorifier dans ma vie. Si tu n'as pas encore tendu la main vers Jésus pour t'agripper à lui, pour qu'il te porte jusqu'au cœur de Dieu et te donner le pardon, alors je t'encourage à prendre une carte comme ça, à mettre ton nom et à mettre la date d'aujourd'hui, parce que la décision t'appartient. Dieu attend que tu prennes la décision aujourd'hui. Et cela changera pour le mieux ta vie, parce qu'il y aura une nouvelle dimension essentielle pour toi qui va t'apporter ce à quoi ton cœur aspire le plus. Je vous encourage à faire cela.